Chapitre 8. Traqué. La mère, assise sur un rondin de bois devant sa porte, vit arriver les deux hommes d'armes. Elle comprit tout de suite qu'on en voulait à son enfant. L'heure tant redoutée était venue. Elle eut d'abord une grande peur qui faillit la jeter suppliante à deux genoux au milieu du chemin. Puis l'imminence du danger lui dicta une meilleure attitude. « S'ils me voient rentrer, ils se douteront que je vais l'avertir, » réfléchit-elle. « Il faut pourtant qu'il s'enfuit. » Sans se retourner, sans interrompre le mouvement de ses doigts sur la quenouille, elle appela à voix basse. « Martin !»«
Oui, mère, » répondit celui-ci de l'intérieur de la chaumière.
« Non, ne sors pas. Approche-toi de la porte et écoute-moi bien. Plus près. Je ne peux pas parler fort. Ils viennent te chercher. Sauve-toi par la fenêtre et va te cacher dans les bois. Cette nuit, tu reviendras, je te préparerai à manger. »
Martin sentit qu'il fallait obéir sans perdre un instant. Il se glissa à travers la petite fenêtre et sauta dans l'enclos. Une haie descendait jusqu'à la palissade éventrée. Après, c'étaient les premiers champs bordés de haies, eux aussi. La fuite était aisée. Il courut, pliant en deux, épouvanté chaque fois qu'une poule surgissait des basses branches avec des caquetages effarouchés. Il atteignit le bout de l'enclos et s'arrêta pour regarder en arrière. Les soldats parlaient avec la mère. Leurs silhouettes massives se découpaient sur le ciel, surmontées des croissants de leurs hallebardes.
« Je ne sais pas où il est, » disait la mère. « Je ne l'ai pas vu depuis ce matin. Il est toujours à courir, vous savez. »
Sa voix parvenait jusqu'à l'enfant blotti dans le feuillage. Comme elle avait l'air calme, la mère. « Le Seigneur nous envoie pour le chercher. « Faut le trouver, » répondit le soldat. « Je vous dis qu'il n'est pas dans la maison. Vous pouvez regarder. » Un des hommes entra en baissant la tête. L'autre fit le tour de la chaumière. Il jeta un regard rapide dans l'enclos. Martin se crut découvert. Les genoux au menton, il se ramassa le plus qu'il put, cependant que des gouttes de sueur coulaient le long de son dos. Le soldat n'insista pas. Comme son compagnon ressortait, il estima qu'il avait fait lui aussi le nécessaire. Tous deux reprirent le chemin du château, après avoir lancé ces paroles que la mère et le fils entendirent avec effroi.
« On reviendra ce soir. Dis-lui d'être là. »
La paysanne les regarda s'éloigner. Quand elle fut sûre qu'ils ne se retourneraient pas, elle pénétra dans l'enclos. Là, une main en visière, elle regarda chaque champ, chaque prairie, jusqu'à ce qu'elle découvrit la tâche déjà lointaine que faisait le surcot brun de son fils. L'enfant, apeuré après ce qu'il venait d'entendre, fuyait vers la forêt. Parfois, elle le perdait de vue au coin d'un rideau d'arbres et elle tremblait quand elle le voyait se lancer au travers d'une prairie pour gagner du temps.
« Pour sûr que le guet va le voir. Pourquoi fait-il cela ?
Non, pas par là ! Ah, mon Dieu !»
Il disparut. Elle revint s'asseoir sur le rondin, reprit sa quenouille, et personne n'aurait pu deviner à la voir si calme, si rapide à l'ouvrage, qu'elle avait en elle une peur qui l'occupait tout entière. Martin ne se sentit en sécurité que lorsqu'il eut atteint des bois. Au milieu des fourrés et des buissons armés d'épines, il était assuré d'échapper à toutes les poursuites. L'automne n'avait pas achevé de dépouiller les arbres. Le vent arrachait les feuilles qui craquaient ensuite sous les pas. Ce bruit n'effrayait pas Martin, dont les pieds nus sauraient être silencieux à la moindre alerte. Seulement le vent, la rousseur de tout ce qui l'environnait et les gros nuages qui pesaient sur la forêt augmentaient la peine qu'il avait au cœur. Allait-il errer ainsi jusqu'au soir sous les arbres ? Une bourrasque jeta sur les feuilles une poignée de pluie. Les gouttes ne touchèrent pas le sol, mais Martin eut froid. Il dirigea ses pas vers une source qu'il connaissait. Il l'avait découverte un jour de vagabondage en suivant la trace d'une laie qui fuyait avec ses marcassins. Personne ne se souvenait plus de cette source, et pourtant une pierre, gravée d'un signe mystérieux, prouvait que des hommes autrefois étaient venus y boire. Quelque ermite peut-être qu'il avait aménagé et partagé avec les bêtes de la forêt. Martin y arriva en écartant les branches. La petite fontaine coulait toujours au milieu d'un fouillis d'herbe née de sa fraîcheur. Sur la pierre mangée de mousse, le signe était visible encore. Martin gratta du bout des doigts le dépôt verdâtre et crut reconnaître un poisson. Un poisson, qu'est-ce que cela veut dire ? Il but au filet d'eau. Pour calmer la brûlure des orties, il baigna ses pieds en couchant les herbes. Après avoir rafraîchi ses mains et son visage, il se sentit mieux. Allongé sur le dos, la nuque reposant sur ses doigts croisés, il attendit la nuit. Un oiseau chanta, une pie vint se poser tout près. Un lapin ne renonça qu'à contre-cœur à croquer les tiges gorgées d'eau, après avoir hésité un long moment devant l'insolite présence de ce dormeur. Car Martin s'était endormi. La cloche du monastère sur le coteau voisin le réveilla comme le soir tombait. Il attendit la nuit close
pour retourner au village et se remit alors en marche dans l'obscurité grandissante des bois. À la lisière, il s'arrêta sous le pin où avait commencé son aventure. Le nid se balançait sur la fourche, vide, boule noire sur un fond de ciel encore clair et qui perdait ses brindilles au vent d'automne. Martin le considéra longtemps. « Je ne regrette rien, se disait-il. C'était si beau de dompter un oiseau de proie. » Une progression lente le long des haies le conduisit jusqu'aux premières maisons. Les bêtes et les gens s'étaient enfermés pour la nuit. Seule une ombre circulait encore dans le clos, s'attardant à ranger une houe, à vérifier un loquet, avec une lenteur inhabituelle à cette heure. Martin enjamba les débris de la palissade et, caché dans un lilas, il appela doucement. « Mère !» L'ombre se redressa. Elle ne se tourna pas tout de suite dans la direction d'où venait la voix. Elle regarda le chemin entre les chaumières et la fenêtre du voisin. Lorsqu'elle fut sûre que tout dormait, elle cala un fagot sur sa hanche. Sans se presser, alors qu'elle mourait d'impatience, elle descendit au bas de l'enclos. « Je suis ici, mère !» souffla Martin. «
Pas si fort, on pourrait nous entendre !»«
Nous ne risquons rien, je me méfie du voisin !» Un dernier regard encore et elle lâcha son fagot. Elle n'était pas bien grosse. Les branches du lilas se refermèrent facilement sur elle. Là, dans cet abri où chaque mouvement provoquait un craquement de brindilles, elle étreignit son fils comme si elle l'eût retrouvé après une très longue absence.
« Quel souci j'ai eu tout le jour! Quelle inquiétude! Mon Pichou, tu n'as pas eu trop faim au moins !»
Elle ne pensait qu'à cela, à la faim qu'il avait pu avoir. De la peur, des longues heures, rien. C'était vrai qu'il avait eu plus de faim que de peur. Il aurait voulu la rassurer, lui dire qu'il avait trouvé des glands, des noix, des champignons, mais il avait le ventre si creux qu'il n'eut pas le courage de mentir. « Il n'y a plus rien dans les bois. Les gens du village ont tout ramassé. J'ai très faim, mère.
Tu vas manger, attends, tu vas manger. J'avais encore un peu de lard, je te l'ai gardé. Et je t'ai fait une galette aussi. Je l'ai cuite en cachette sur les pierres chaudes. Je ne pouvais pas aller au four, tu comprends ?»«
Allez la chercher, mère, » interrompit Martin, avec un pauvre sourire que la nuit dissimula.
« C'est vrai, je parle et pendant ce temps tu meurs de faim. Tiens, regarde, c'est tout préparé. »
Elle sortit de dessous les feuilles un panier garni des victuailles annoncées. « Je l'ai mis là avant que tu arrives. Je ne voulais pas que tu rentres à la maison. Il faut que personne ne te voie. Tes frères pourraient parler, ils sont jeunes, ils ne comprennent pas. »
« Ne mange pas si vite, tu as le temps.
Et cette voisine, elle ne change pas, tu sais. Quand les soldats sont revenus, elle était sur la porte pour écouter. »«
Les soldats sont revenus ?»«
Oui. » Je leur ai dit que tu étais encore dans les champs, mais que je t'avais prévenu. Qu'est-ce qu'ils ont répondu ?
Rien. Ils sont repartis.
Ton père me dit que je suis folle d'avoir si peur, que le Seigneur te pardonnera. Mais moi, je n'ai pas confiance. On t'a bien emprisonné, pas vrai ?
Je les connais. Ils recommenceraient. Il ne faut pas qu'ils te prennent.
Elle chuchotait pendant qu'il dévorait le lard avec une précipitation de chien errant. Quand il attaqua la galette, il étendit sa main sous son menton pour recueillir les miettes. Rien ne devait se perdre. «
Tu verras, poursuivait la mère, tout sera vite oublié. Il faut laisser passer du temps. J'irai demander ta grâce au Seigneur. Il me l'accordera. S'il ne me l'accorde pas, j'irai supplier la dame. »
Un coup de vent monta de la plaine. On l'entendit courir sur les pâtures, secouer le village et se perdre au loin.
« Tu ne peux pas passer la nuit dehors, mon pauvre petit. Il fait trop humide, tu attraperais la mort. Va au monastère, demande asile. Tu n'y seras pas poursuivi. »
Mardi soir, tu reviendras ici à 7 heures. Si j'ai obtenu ton pardon, tu pourras te montrer un de nouveau.
Oui, mère. Rends-toi utile là-bas. Aide les moines, sois bon garçon.
Oui, mère.
Va vite, ne t'arrête pas en chemin.
Elle multipliait les recommandations, sachant bien qu'il ne les écoutait pas, mais les disant quand même dans l'espoir assez vain que toutes ne seraient pas perdues. Soudain, elle précipita la séparation. Elle embrassa son fils, elle lui donna un baiser rapide sur la joue, un baiser presque indifférent, et le poussa hors des ramures.
« Pars maintenant !»
La tristesse qu'elle ressentit, personne d'autre ne la sut. Personne d'autre qu'elle ne la sut. Étendue sur son grabat, les yeux grands ouverts, fixés sur les poutres calcinées qui soutenaient mal un toit de fortune, elle suivit par la pensée la course nocturne de son enfant. Martin ne reprit haleine qu'au pied d'une croix plantée à un carrefour. Un sentier serpentait sous les arbres. Au bout était le monastère. Quelques bâtiments très pauvres, une chapelle ornée de fleurs des champs, un cloître minuscule, une dizaine de tombes, un jardin. Le tout entouré d'un mur de pierre sèche et noyé dans le silence. La cloche qu'il agita retentit dans le silence comme un appel de détresse. Elle fut entendue de la même façon, car il n'eut pas le temps de sonner une seconde fois.
Un Judas s'ouvrit avec un claquement sec de mécanique bien entretenue. Vieille habitude plus que précaution, car tout de suite une clé grinça dans la serrure et la porte s'ouvrit. Martin vit dans l'encadrement un haut capuchon noir qui ne laissait deviner aucun trait. « Mon père, je viens vous demander asile. » Le capuchon s'inclina imperceptiblement. La silhouette s'effaça pour livrer le passage. Martin entra. Derrière lui, le moine referma la porte.